Nouveau Testament, on dissocie évidemment l'ange et le Dieu. Bien. Alors l'ange s'en va. Ce climat d'allégresse, oh combien, puisque non seulement elle est la mère du Messie, mais elle a touché une assurance supplémentaire qui lui était très chère, c'est qu'elle est comblée au-delà de toute son espérance historique, mais il y a en même temps ce tout de suite qui est exaucé, ce qui porte cet évangile au sommet de sa jubilation, si je puis dire. Car ce tout de suite a introduit la certitude pour elle que le Messie ne serait pas un fils d'homme, mais serait le fils de Dieu. La naissance, elle, est-ce qu'elle va rompre quelque chose de ce climat d'allégresse et de jubilation? Non. De même qu'à l'Annonciation, Marie tient sa promesse, à la naissance, elle tient son enfant. Nous l'avons dans le récit des bergers, qui diffuse la même atmosphère d'allégresse sans aucune ombre. Elle accouche et l'Évangile nous dit que c'est son fils. C'est sans mélange. Tous les signes, je passe, ça va de soi, ne s'étalent dans ce ciel-là que des signes de puissance, d'allégresse par cette armée céleste, gloire à Dieu. Vous voyez, tout le cosmos est impliqué dans une invité à cette fête de la nativité. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre. Et quant à moi, et aux hommes qu'il aime, j'aime mieux prendre la leçon d'un autre manuscrit et bonté parmi les hommes. Ça me semble un peu plus heureux. Mais enfin, peu importe ici, toujours est-il que le climat est à l'allégresse. Pourquoi? Eh bien parce que la naissance n'a pas séparé la mère de l'enfant, quoi qu'on dise. Il paraît qu'il y a des dépressions post-partum. Il me semble que c'est quand même assez bien d'avoir dans les bras ce qu'on a eu dans le sein. C'est merveilleux, on le voit. Puis il y a ce langage admirable des visages. Ce face-à-face prodigieux de ces yeux de nouveau-nés qui vous boivent littéralement, qui boitent. Et ça, c'est la jubilation absolue. Quoi de commun avec ce qu'on a ressenti comme une charge? Heureuse peut-être, mais c'est une charge quand même. Là, dans les bras, ça pèse moins, il faut dire. Donc, elle éprouve cette joie sans dépression post-partum du tout, qui me semble aussi un comportement qui est induit par la psychanalyse. Du moment qu'on vous en parle, il faut que vous l'ayez. Je referme ma parenthèse. Pourquoi est-elle dans la jubilation sans mélange? Parce que c'est vrai que la naissance est déjà une séparation, si on veut. Mais enfin, on le tient. L'Évangile le dit. Elle s'en occupe. Il est passif. Il est toujours d'ailleurs en complément d'objet direct. Elle est là. C'est elle qui préside à ce début de vie. Et pourquoi? Parce que ils sont toujours dans un enclos. Et l'enclos, ce n'est plus la coilia, c'est-à-dire le sein maternel, mais c'est la fatnée, la mangeoire, en fait, comme on dit, la crèche, dans laquelle elle a déposé son enfant, et qui me semble une sacrée chance, plutôt que d'être allée à l'hôtellerie, qui était peut-être bondée et qui rendait impropre à l'accouchement. Est-ce qu'on accouche en public? Bien sûr que non, elle a trouvé une mangeoire, c'est merveilleux. Il y a le chauffage central avec le bœuf et l'âne, s'ils y sont. Et puis d'autre part, on est seul. Et la solitude est préservée, c'est-à-dire le secret. Et elle vit dans cette intimité absolue, non troublée. Et cette clôture, personne ne circule. Ce n'est pas un hall de gare. Par conséquent, ce bonheur continue et s'amplifie. Et le fait est que lorsque les bergers viennent visiter, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient cette chaîne d'amour, ils virent Marie, Joseph et l'enfant, et réunis par des cas, ils sont là. C'est ce moment heureux d'une famille enfin constituée, intacte, compacte, enclose dans son bonheur. D'où ce concert, là encore, qui ressemble beaucoup à ce qui était le climat de l'Annonciation. Ce concert de louanges qui déborde dans le cosmos tout entier. Mais ça va changer, bien sûr, avec la présentation au temple. La présentation au temple introduit un élément tout à fait nouveau, où certes, la louange ne manquera pas d'être. Entre la vieille âme et le vieux Siméon, c'est la louange des vieillards, les seuls d'ailleurs qu'on rencontre dans l'Évangile. Mais c'est en somme le nouveau, l'Ancien Testament qui salue le nouveau, mettons. Mais donc ce concert de jubilation va continuer, et pourtant, quelque chose va apparaître qui est nouveau. C'est que pour la première fois, on verra Marie dans une attitude qu'elle n'avait jusqu'ici pas eue. L'ange lui avait remis un enfant. La naissance lui a mis un enfant dans les mains. Et là, pour la première fois, c'est elle qui va donner son enfant et le remettre dans les mains de Siméon. Elle fait le premier geste d'oblation christique. Ça apparaît ici. Et c'est, à vrai dire, le début de la maternité, au sens plein du terme, qui est le geste d'offrir. Il n'est plus à elle. Le remettant à Siméon, d'une certaine manière, elle le remet au monde. Et alors, il est bienveillant, tant mieux, n'est-ce pas? Mais il n'empêche que c'est un geste de dépossession. Alors, ne nous étonnons pas que le premier à qui elle ait fait ce geste de dépossession et de dépouillement vienne planter l'annonce de glaive qui lui divisera, qui lui déchirera l'âme. C'est qu'au fond, il ne fait que des compliments de cet enfant. Et en même temps, il dit quelque chose d'assez terrible. Il annonce que ce fils, dans une phrase qui reste énigmatique, est là pour la chute et le relèvement, c'est-à-dire que, finalement, objet de contestation, il est appelé à un destin à la fois d'abaissement et de gloire. Mais pour la Vierge Marie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'elle sera autant dépossédée par la gloire du Fils qu'elle le sera par la persécution qui s'abattra sur lui. Ce Fils-là va se tourner vers le monde, c'est-à-dire se détourner de sa propre mère. Je me demande d'ailleurs si l'emploi de ce mot ronfaya, qui est un mot un peu bizarre, c'est une arme des Thraces, c'est un glaive à deux tranchants. Je ne voudrais pas pousser trop loin le symbole et tomber dans la subtilité, mais je me demande si, quel que soit le destin du fils, de gloire ou de douleur, pour la mère, ce n'est pas un ronfaya de toute façon. Ça tord le projet maternel en même temps que ça l'accomplit. La suite, la fugue du temple. Je ne rappelle pas l'épisode car vous n'êtes pas des laïcs. Mais ce que je dirais simplement, c'est que Jésus, avec cet épisode, va obliger ses parents à faire un deuxième pèlerinage après le premier, et qui sera complètement antithétique. Le premier pèlerinage, qui est d'ailleurs fondé sur des jeux de mots assez subtils et intraduisibles, comme il se doit, kathetos chaque année, katatoetos, selon la coutume, quoi on voulait vous traduire? Non, ne traduisons pas, mais regardons bien quand même qu'il y a une sorte de régularité des mots, une sorte d'uniformité du rite même. C'est une opération cyclique qui s'accomplit avec la foule. C'est une fête ritualisée complètement, elle a ses jours. D'ailleurs, on ne dit rien sur le contenu de la fête, on dit quand les jours furent accomplis. C'est-à-dire qu'on n'en retient que l'aspect formel, et en délaissant volontiers... de manière délibérée, je crois, toute la ferveur. C'est un acte de ritualisation. Et on ne voit pas qu'on y adore Dieu, c'est pas dit, mais ça va de soi, bien sûr. C'est un accomplissement de jour, on sait où on va, combien de temps, quoi, quel geste, et avec qui, hein, la foule des pèlerins. Alors maintenant, le deuxième pèlerinage, pour chercher l'enfant, c'est tout le contraire. C'est un contre-pèlerinage, d'une certaine manière. D'abord, ils vont aller à contre-courant, c'est-à-dire que quand les autres descendent, eux vont remonter. D'autre part, ce n'est pas selon la coutume, certes, c'est selon l'accident, imprévisible. D'autre part, il n'y a plus question d'accomplir des jours. Ils ne savent pas combien de temps ça va durer. Le lieu, ils ne connaissent pas. Là, ils allaient au temple. Maintenant, où chercher cet enfant ? Ils errent tant qu'ils peuvent, d'ailleurs la finesse du texte est extraordinaire. Ils commencent par le chercher parmi les parents, la famille, les cousins, les tantes, les oncles, que sais-je, les sungénèses. Puis alors après, ils vont sans doute un peu plus loin. Les connaissances, le voisinage, que leur apport, c'est l'inconnu. Et ils remontent dans cette ville qui n'est pas la leur. Par conséquent, ils sont perdus de temps, de lieu. Ils sont tout seuls. Ce n'est plus un pèlerinage collectif. On se fait tout seul. Et les gestes, quels gestes faire? Autant ils étaient ritualisés dans le premier pèlerinage, dans le second, le verbe chercher est un verbe atroce, à vrai dire. Quand on cherche un objet, c'est parce qu'on ne sait pas où chercher, et ni quoi faire pour le trouver. N'est-ce pas? Par conséquent, la régularité disparaît. Et il reste, au lieu de cette ferveur de la piété, il reste l'angoisse. On ne sait pas comment ça va finir. Le dénouement est totalement inconnu, alors que là, il était parfaitement prévisible, dans le premier. Mais surtout, on cherche quelqu'un, et on l'a nommé. Il s'agit, cette fois, d'un enfant. Et cet enfant est le Christ, et d'une certaine manière, c'est le premier pèlerinage. Tous ceux qui ont suivi, ensuite, dans la tradition chrétienne, vont vers le Christ. Ils savent où ils vont, c'est le Christ. Et là, c'est le Christ, c'est le premier. Je noterai un mot parce que j'en aurais besoin tout à l'heure. Il le croyait dans la... pensant qu'il était dans la caravane, dans la synodie, notamment. Retenons ce mot, je n'en dis pas plus pour l'instant. En tout cas, on peut remarquer encore un détail, c'est que dans cette expérience si douloureuse de la recherche d'un enfant perdu, car il n'y a rien de plus atroce que d'égarer son enfant, tout est possible. L'enlèvement, le meurtre, le sadique, c'est ce que c'est. Donc, on remarque que lorsqu'ils sont dans la joie, on dit toujours le père et la mère, ou les parents, ils sont ensemble, forment un couple. Mais lorsqu'ils sont dans l'anxiété, c'est fini. Marie est toute seule. Il y a une sorte d'isolement. Et le fait est qu'elle va parler, c'est elle qui va prendre la parole. Alors écoutons-la, elle dit quelque chose d'extraordinaire. Technon, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'elle parle ancien. Technon, c'est mon tout petit. Justement, il a 12 ans et il est en train de passer à l'âge adulte. Et elle parle d'une manière tout à fait anachronique. Ce qui prouve le décalage qui, pour la première fois, n'est plus extérieur comme le geste de passer un enfant dans les bras d'un inconnu, mais le décalage plus intime entre la mère et l'enfant. L'enfant grandit vite et la mère, elle est un adulte, essaie de rester stable, identique à lui-même. Il essaie de ne pas vieillir. Mais l'enfant, lui, va vers sa croissance. Et par conséquent, il devient un étranger, sous nos propres yeux. Et là, c'est le cas. C'est justement au moment où il n'est plus un technon qu'elle lui lance ce mot. Pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchions tout angoissé. Et le toi de nous te cherchions est tout à fait loin de ton père et moi. C'est-à-dire que la phrase marque la distance, tellement atroce, qui les a séparés. Le père et la mère sont nommés au début de la phrase, et puis lui, il est tout perdu au bout. Bon, alors, l'eau d'une eau, nous te cherchons tout angoissé, c'est vraiment les douleurs de l'accouchement. C'est-à-dire les douleurs de cette séparation. Un petit détail, c'est ton père et moi. D'habitude, l'habitude grecque et l'habitude latine veulent qu'on commence toujours par se nommer. Nous, en français, on dit « vous et moi ». Quand on dit « moi et vous », c'est qu'on est mal élevé. C'est l'inverse chez les latins et les grecs. On commence toujours par dire « moi et toi ». Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il parle presque français. Non, de lui faire un reproche, d'avoir transgressé un commandement essentiel. Le malentendu est évidemment très grand, puisqu'il va leur répondre avec la désinvolture, ou voire l'impertinence de l'adolescent. Et déjà, la technique qui sera la sienne dans sa maturité, à une question, je réponds par une question. Pourquoi vous me cherchiez? Ne saviez-vous pas que je dois, avec ce fameux « dei », qui est évidemment le mot de la passion, il faut que le fils, etc. Il parle comme un adulte, il n'est plus un technome. Elle s'est trompée. Ne saviez-vous pas que je dois être dans les lieux de mon père? Alors elle a dit « ton père », et évidemment, le « ton père » et le « mon père », c'est pas le même. La distance est totale, le malentendu est aggravé d'ailleurs par la similitude des mots qu'ils emploient, c'est-à-dire le mot chercher et le mot père. On nous dit ensuite, et on ne s'étonnera pas, qu'ils ne comprirent pas la parole qu'il leur prononçait. Et pourquoi? Eh bien, parce que le sun, c'est avec, le comprendre ici, c'est comme en français d'ailleurs, comprendre, le cum avec, c'est-à-dire la liaison qui suppose l'intelligence, l'échange, disparaît. Ils ne sont plus capables de cet acte de comprendre, non pas par indignité ou par sottise personnelle, mais parce que c'est le cheminement normal de toute maternité normale. Il y a un moment où on ne comprend plus, parce qu'il est devenu autre. Donc ils ne peuvent pas comprendre. S'ils comprenaient, ils seraient encore un technon. Ce ne sont pas des prophètes, ce sont des gens de la commune humanité qui participent à notre expérience. Ils ne comprennent pas. Le texte ajoute ensuite qu'il descend avec eux à Jérusalem, ouais, mais et il leur était soumis. Alors bien sûr, c'est un enfant obéissant, revenons au moralisme, c'est un bon petit garçon, imitons tous, mais tout seul. Cette déchirure que j'ai essayé de noter, qui me semble non critiquable, on ne va pas inventer une sorte de morale fusionnelle, de concorde pacifique, qui me semble de la mièvrerie, car ce n'est pas l'expérience de la maternité, et elle va apparaître dans un détail que merveilleux de l'Évangile, et qui est imperceptible, et qu'il est d'autant plus qu'il est intraduisible là encore, c'est qu'à deux reprises dans les Évangiles, dans l'Évangile de Luc, réapparaît la même phrase, une fois à l'épisode des bergers, pour le conclure, et une autre fois à l'épisode de la fugue du temple, pour le conclure également. On nous dit, et Marie conservait toutes ces choses en son cœur. Même phrase. Ça n'a pas d'intérêt. Regardons le grec d'un peu plus près. Nous nous apercevons que dans l'épisode des bergers, où tout n'est que luxe calme et volupté, harmonie et paix complète, elle n'a que des raisons de se réjouir. Et le verbe conserver ces choses en son cœur, c'est sun terei, le sun qui réapparaît dans le verbe, dans le mot symphonie, et qui marque en effet l'harmonie, tout baigne, comme on dit, la joie parfaite, il n'y a pas d'ombre au tableau. Alors que dans la deuxième fois, c'est-à-dire que lorsqu'elle a vécu la séparation, l'angoisse de la séparation, la douleur d'un malentendu, elle garde également ces choses en son cœur, mais le verbe n'est plus le même. C'est le verbe inverse. Certes, le radical terrain, conservé, gardé, est maintenu, mais le préfixe est changé. C'est dia terrain, qui est le contraire de su. Et ceci est une nuance intraduisible qui en dit tellement long sur le cœur lui-même. Cet évangile qui est tellement sobre d'état d'âme s'exprime par le jeu des particules, des préfixes et des détails grammaticaux qui me semble ici ne pas être des détails du tout. C'est que désormais, ce que garde Marie en son cœur est traversé de discordance, de dissonance. L'avec de la gestation, de la naissance, est devenu quelque chose d'impossible. Et désormais, cet amour sera déchiré par l'inquiétude, voire l'incompréhension. La fugue du temple a représenté une manière pour le fils de signifier son fait à son père à son père terrestre, Joseph. C'est pas son père, c'est son père adoptif, son père selon la loi. Mais son père, c'est Dieu. Le tour de la mère va venir, quoi qu'il soit né d'elle. Et cela se passe dans une scène rapportée par les trois synoptiques, où, comme on sait, il a son auditoire qui fait cercle autour de lui et qui est perturbé par l'arrivée intempestive de la mère accompagnée du reste de la famille, dont ta mère et tes frères demandent à te voir. Je crois qu'il faut garder le texte toute sa virulence. Sinon, nous n'aboutissons qu'à des choses inintéressantes. Le fils va répondre qui sont ma mère et mes frères, ce sont ceux qui accomplissent la volonté de Dieu. Alors on dit, pour racheter ce mauvais fils, parce qu'on est un peu gêné, on dit, mais oui, mais sa mère, justement, elle a fait la volonté de Dieu, mais évidemment, elle l'a fait. Donc, c'est à elle qu'il pense. J'en suis pas tellement sûre. Et je crois que la filialité, c'est comme la maternité. L'accord est d'une autre nature. Et en tout cas, il n'est pas d'une... Il est tellement profond, je vais m'en expliquer à la fin, mais il n'est pas à ce niveau trop visible. Au fond, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir que Jésus est un fils respectueux. À ce moment-là, j'ai qu'à lire la comtesse de Ségur, ça suffira largement. Il y a autre chose dans ce texte. Et je crois qu'il faut lui garder sa virulence. D'abord, la question est d'une rare impertinence, car nous savons tous, sauf les enfants trouvés, qui est ma mère. Il n'y en a qu'une d'abord, et lui va en désigner une multitude. Donc c'est une question qui déjà est scabreuse. Il n'a jamais dit ça de son père, il n'a jamais dit qui est mon père. Ça fait pas un pli. D'autre part, est-ce qu'il inclut Marie ? Donc, la question qu'il vient de poser, donc, sert à briser l'évidence de l'affirmation. Voilà ta mère, et non. Qui est ma mère ? Un peu à la Socrate. Vous croyez être sûr de vous ? Attendez, je vous pose une question. Vous le serez déjà moi. Alors, est-ce qu'il inclut Marie ? Deux évangiles sur trois précisent, comme s'ils prévoyaient l'objection ou ce réflexe, ils précisent qu'il montra avec le doigt l'auditoire. C'est-à-dire qu'ils ont dit elle aussi. C'est très rare qu'on indique un texte, un geste de Jésus. Et là, c'est net. Il montre l'auditoire pour dire que ce sont ses anonymes. D'une certaine manière, il la rejoint. Cette séparation dont j'ai l'air de forcer le trait, en réalité, est peut-être aussi un acte de communion. Parce que celle que Élisabeth a appelée la mère de mon sauveur ne peut plus être une mère nazarienne. C'est-à-dire une mère qui a son enfant, une villageoise, qui a sa couvée autour d'elle. Ça suppose le dédit à parole de cette maternité charnelle. Ça se confirme, bien sûr, aux noces de Cana. Et là, alors, dans l'évangile de Jean, c'est Marie l'initiatrice de la séparation. Ce n'est plus le Christ. Et c'est elle qui, je comprendrais bien pourquoi Xavier Léon Dufour, prétend que c'est l'évangile marial par excellence. Il est vrai que elle a de Jésus une perception très antérieure à celle des disciples qui sont déjà autour du maître. Ils n'ont pas de vin, phrase tout à fait énigmatique, d'abord parce que c'est un invité, et que d'autre part, ce n'est pas une demande. Elle n'a pas dit « donne-leur du vin ». Elle leur dit simplement, c'est la confession de leur détresse, je pense qu'on peut appeler leur gêne. Elle lui donne apparemment un rôle. Elle le traite comme elle le dirait au maître de maison. Et d'une certaine manière, elle le sacre maître de maison, comme il va le devenir à la dernière scène. Ou tout au moins avec, dans son comportement usuel, quotidien avec ses disciples. Et d'autre part, elle va croire en lui avant toute l'épreuve. Les disciples croient en lui après le miracle, dit le Christ. Avant, ils adhèrent. Mais ils crurent en lui, après le miracle. Elle le croit avant. Et ce faisant, elle va sacrifier les 30 années de clôture qu'ils ont vécues. La réponse du Christ montre qu'il a compris l'élargissement de la parole mariale. Le vin, bien sûr, c'est le sang. Les noces, c'est le monde. D'où cette réponse dramatique. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Alors, c'est intraduisible comme il se doit. Quoi, à toi et à moi ? Ce que l'on peut constater, c'est que cette parole est prononcée dans l'Évangile, généralement par les démons, et signifie que le premier terme nommé entre toi et moi, le premier terme nommé est prépondérant. C'est lui qui a l'ascendant, une autorité souveraine à laquelle on ne peut pas se soustraire. Et le fait est qu'il ne résistera pas. Donc, Marie joue à ce moment-là le rôle que jouera le Christ à l'encœur de ministère. Elle représente, elle incarne l'ascendant de l'interlocuteur, l'interpellation à laquelle il n'y a pas de résistance possible. Et en même temps, bien sûr, il entrevoit le terme ultime dans cette parole qui est au présent. Alors là, nous avons un présent. Lui, il entend le futur. C'est un peu l'inverse de l'annonciation. C'est-à-dire qu'il entrevoit la passion, d'où ce frémissement dans l'insouciance de la noce. Ce frémissement, mon heure n'est pas encore venue. Et après une parole qui semble négative, ou même qui semble une rebuffade, Marie a en réalité parfaitement compris ce que disait son fils, qui correspondait à ce qu'elle avait elle-même dit, à la fois par le caractère tragique de la passion et par l'élargissement d'un simple incident domestique à tout l'avenir du monde. Elle se tourne vers les serviteurs, tout ce qu'il vous dira, faites-le, ce qui ressemble étonnamment au propos, la voix du ciel qui tombe, écoutez-le, n'est-ce pas, au moment de la transfiguration. Elle a compris que ce nom apparent du Christ était en réalité un oui, évidemment. D'ailleurs, elle tient avec Dieu, c'est la seule qui, avec Dieu, peut dire agapetos, le bien-aimé, mon fils bien-aimé. C'est la seule. Voilà. Autrement dit, les noces de Cana montrent qu'un enfantement et une mise au monde ne sont pas le même acte. L'enfantement reste encore dans la joie de la possession, dans le triomphe de la maternité, dans l'exaucement de cette tendresse de nos bras et de nos cœurs, de nos visages. Mais ici, bien sûr, la mise au monde, c'est bien autre chose. Prenons ce mot, cette expression dans son sens littéral, c'est mettre au monde, ce n'est pas mettre chez soi. La maternité, déhiscence inévitable, est-ce donc une douleur, est-ce un échec? Non, pas du tout. Je crois que c'est son accomplissement vrai. Il ne s'agit pas d'enclore les siens, il s'agit de les faire éclore, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et est-ce qu'il y a donc, jusqu'à la fin, un malentendu, pour moi, cette séparation permanente, qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les scènes de rencontres entre Marie et son fils? Pas du tout. Car il y a en réalité des sortes de retrouvailles que l'on va voir dans le comportement du Christ lui-même. Ce que Marie vit au stade familial, Jésus va le vivre au stade universel. Pourquoi? Eh bien, remarquons son comportement. Lui aussi va tout le temps évaser cette notion d'amour qui spontanément se porte au tout proche, qui va toujours l'évaser vers le plus loin possible, en sorte que le plus aimé, ce n'est pas seulement le prochain, mais c'est aussi le lointain. Ce n'est pas quelques-uns, mais c'est tous. D'abord, on peut remarquer quelque chose de tout à fait étrange. Ce qu'il est tout à fait capable de dire ton frère à Marthe, ou ton enfant à la cananéenne, ta fille. Mais il est incapable, quant à lui, de désigner sa propre famille par les mots de la parenté. On peut chercher. Je me suis amusé à cet inventaire, j'en peux dire, ça m'a quand même passablement saisi. Il n'est pas été capable une seule fois de dire mon frère, ou mon père en parlant de Joseph, ou ma mère en parlant de Marie. C'est jamais arrivé. Donc il fuit toujours ces mots. Et il a un comportement qui n'est pas un comportement de favoritisme envers ses proches. Sa femme, il l'appelle, sa mère, il l'appelle femme. En revanche, il utilise d'une manière extrêmement fréquente les termes de la parenté. Fils, fille, sœur, enfant, père, mère. Et toujours dans un sens non charnel, sans une exception. Et toujours d'ailleurs dans des circonstances particulièrement dramatiques. Il prononcera le mot de mère pour Marie, mais mère de qui? Pas de lui, de Jean, au pied de la croix. Ce qui va donner à Marie finalement ce qu'elle n'a cessé de commencer depuis le début, à savoir une maternité qui elle-même éclate et s'en va vers les autres. Il ne s'agit pas simplement de se séparer d'un enfant, mais si on le donne, c'est pour adopter soi-même le monde entier, le tous les autres en somme, comme son propre enfant. Et en ce sens, dire qu'elle est mère de l'Église, moi je trouve quelque chose de profondément vrai là-dedans, n'est-ce pas? Parce que, d'une certaine manière, on devrait toutes l'être. D'autre part, lui-même, quand il va, qui va-t-il appeler frère? Alors ceux qui exécutent la parole de Dieu ou sœurs, mais frères aussi ses disciples. Et dans les grands discours de la fin, ou quand il est ressuscité, va dire à mes frères, c'est-à-dire à des moments tragiques, des moments de séparation, où il va utiliser les mots familiaux parce que ce sont des mots définitifs. On ne cesse pas d'être frère, on l'est pour toujours, même par-dessus les brouilles. C'est le mot du plus grand attachement humain. Il n'y en a pas d'autre, même l'ami on peut rompre. Mais le frère, on l'est toujours, même serait-on dans la brouille. De même, il va appeler ses disciples enfants au moment où il les quitte dans les grands discours joanniques d'adieu. Mes petits-enfants, on n'en sent pas pourtant. Et il va dire ma fille à quelqu'un qui ne peut pas l'être. Elle a son âge, pas mot, vu sa maladie et sa durée. C'est toujours un moment particulièrement dramatique, parce que cette scène est une des plus tragiques de l'Évangile. Que ces mots lui viennent, quant au mot de père, bien sûr, terme royal entre tous. Père, oui, c'est le sien, c'est aussi celui de tous. C'est ainsi que lui-même rejoint ensemble cette forme d'amour, qui est le modèle de tout amour, qui consiste à se briser soi-même pour être accueil ou pour être mouvement vers un amour universel dont nos familles, hélas, nos